sommes le mercredi 11 décembre 2024. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui. Au micro, Nanit Talani. Au menu, Amnesty demande une enquête indépendante de l'ONU sur la MONUSCO après le massacre de Goma en 2023. À Nairobi, la police kényane réprime violemment une manifestation contre les féminicides. Environ 150 millions d'enfants sont privés d'identité légale à travers le monde, avertit l'UNICEF. La justice de New York s'oppose à l'annulation de condamnation de Trump. L'ONU se prononce sur un cessez-le-feu à Gaza après le veto américain au Conseil de sécurité. Quelle solution face aux défis posés par la montée du niveau de la mer et le réchauffement des océans aux Seychelles?
Nous n'avons pas de poissons, pas assez de poissons à cause du changement climatique. La température est très élevée et les poissons doivent aller loin dans les profondeurs de la mer.
Où sont les requins? Où sont les raies? Où est toute chose? Je ne vois rien.
Des détails dans nos magazines. Enfin, en sport, nous ferons le point sur le mondial masculin 2030 et le mondial féminin 2027. On n'oublie pas la Minute Éco. Restez avec nous pour plus de détails. Voici le journal. Dans un rapport publié ce mercredi, Amnesty International accuse les FRDC de possibles crimes contre l'humanité lors du massacre de 56 personnes à Goma en août 2023. L'ONG rapporte que les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants, principalement membres d'un mouvement religieux, les FNJMN, qui protestaient contre la MONUSCO. Le bilan fait état de 56 morts et de plus de 80 blessés. Amnesty a identifié trois hauts responsables militaires, dont l'ex-gouverneur militaire du Nord Kivu, Kostandi Makongba, comme étant responsables et devant être enquêtés pour leur rôle dans ces événements. La justice congolaise avait précédemment condamné plusieurs militaires, dont le colonel Mike Mikombe, pour ces meurtres. Amnesty appelle également l'ONU à mener une enquête indépendante sur le rôle de la MONUSCO. La police kényane a tiré hier mardi des gaz lacrymogènes et arrêté des manifestants lors d'une marche pacifique contre les féminicides dans la capitale Nairobi. Les détails avec Eric Manirakiza.
La police a été massivement déployée dans la capitale Nairobi avant cette manifestation. Plusieurs organismes de défense des droits de l'homme avaient appelé à marcher pour réclamer aux autorités des mesures contre les violences à l'égard des femmes. Les policiers y ont également arrêté de nombreuses personnes, selon des groupes de défense des droits humains. Le rassemblement est monté en puissance dans l'après-midi, lorsque plusieurs centaines de femmes ont marché jusqu'au Parlement. La marche a été dispersée à plusieurs reprises par des gaz lacrymogènes. Amnesty International et la Law Society of Kenya ont publié une déclaration commune condamnant les actions de la police mardi, estimant qu'elles envoyaient un message glaçant aux manifestants pacifiques. La Commission nationale kényane des droits de l'homme a déclaré en novembre avoir recensé 97 assassinats de femmes au cours des trois mois précédents. Après la publication de ces chiffres, le président William Ruto s'est adressé au Parlement, jugeant la violence fondée sur le genre tragique et inacceptable et exhortant la société à s'attaquer au problème.
En Tanzanie, le principal parti d'opposition prévient de son intention de bloquer les élections présidentielles et législatives de 2025 s'il n'y a pas d'ici là la mise en place de réformes significatives du système électoral. Jean-Roger Billon pour plus de précisions.
Pour le président du parti Chadema, Freeman Mbowe, pas de réforme, pas d'élection en 2025. Nous ne parlons pas de boycott, nous bloquerons les élections par la confrontation, a mis en garde son adjoint Tundu Lissou. Cette annonce intervient après les résultats des élections locales du 27 novembre, ayant affiché un raz-de-marée du parti au pouvoir, le Chama Chama Pinduzi, crédité de près de 99% des sièges d'élus dans les villes, villages, hameaux et quartiers. Le principal parti d'opposition, Chadema, a jugé ces élections manipulées et entend déposer une requête auprès de la Haute Cour. L'opposition réclame de longue date une réforme électorale, une requête constamment ignorée par le parti au pouvoir. Ce scrutin a été considéré par de nombreux observateurs comme un test démocratique avant les scrutins de 2025 dans un contexte de répression politique accrue ces derniers mois dans ce pays d'Afrique de l'Est.
Au Soudan, au moins 176 personnes ont été tuées lundi et mardi lors de bombardements imputés à l'armée et aux forces paramilitaires. Par ailleurs, l'ONU se dit inquiète de l'afflux au Soudan du Sud de milliers de personnes qui fuient les nouvelles violences. Alexandre Ollognon fait le point.
La journée de mardi a été marquée par les combats les plus violents de cette année entre l'armée régulière conduite par le général Abdel Fattah al-Burhan et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo. Des bombardements menés par les forces paramilitaires sur Omdurman, proche banlieue de la capitale soudanaise, ont tué mardi au moins 65 personnes et fait des centaines de blessés, selon le gouverneur de l'état de Khartoum. Ce raid intervient au lendemain d'un bombardement meurtrier attribué à l'armée. Selon un groupe d'avocats pro-démocratie soudanais, plus de 100 personnes ont été tuées lundi dans un bombardement de l'armée sur un marché au Darfour Nord, dans l'ouest du Soudan. L'armée soudanaise a nié de son côté avoir mené cette attaque, dénonçant dans un communiqué des mensonges répandus par les partis politiques qui soutiennent les FSR.
L'UNICEF rapporte que 150 millions d'enfants dans le monde sont privés d'identité légale, ce qui les expose à des violations de leurs droits. Ces enfants, sans certificat de naissance, n'ont pas accès à des services essentiels comme les soins de santé et l'éducation. L'Afrique subsaharienne, avec un faible taux d'enregistrement de 51%, représente plus de la moitié des enfants non comptabilisés. L'UNICEF appelle à intensifier les efforts pour garantir l'enregistrement de chaque enfant à la naissance.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Washington a débloqué 20 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine. Cet argent représente sa part du prêt de 50 milliards promis par le G7 et qui sera remboursé par les intérêts des avoirs russes gelés du fait des sanctions. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Les États-Unis ont donné suite à leur engagement d'octobre en transférant ces fonds sur le fonds intermédiaire dédié à l'Ukraine de la Banque mondiale, par l'intermédiaire duquel ils seront mis à la disposition de l'Ukraine, a annoncé mardi le département américain du Trésor dans un communiqué. Ces fonds, financés par les recettes exceptionnelles provenant des actifs immobilisés de la Russie, fourniront à l'Ukraine un soutien essentiel, a déclaré la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Après des mois de discussions, les dirigeants du G7 avaient conclu en octobre un accord pour utiliser les intérêts générés par les avoirs souverains russes gelés dans leur juridiction du fait des sanctions prises par les pays occidentaux afin de garantir un prêt de 50 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine. L'administration Biden s'évertue à accélérer son aide à l'Ukraine avant la passation de pouvoir à l'administration Trump le 20 janvier et avait annoncé samedi une aide estimée à 988 millions de dollars à Kiev.
La justice de l'État de New York a rejeté la demande de Donald Trump d'annuler ses condamnations dans deux affaires majeures, l'une pénale et l'autre civile. Concernant sa condamnation pénale dans le procès Stormy Daniels, les procureurs ont suggéré de suspendre la procédure jusqu'à la fin de son mandat présidentiel en 2029. Trump, reconnu coupable de paiement secret à l'actrice pour étouffer une affaire, avait demandé l'annulation immédiate de la condamnation en invoquant la grâce présidentielle. La justice souligne qu'il n'existe aucune base légale pour annuler le verdict. L'Assemblée générale de l'ONU doit se prononcer ce mercredi sur une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza, un projet similaire bloqué par le veto des États-Unis au Conseil de sécurité en novembre. Ce texte non contraignant exige également la libération des otages et un accès humanitaire sécurisé à Gaza. Les résolutions débattues incluent aussi un appel à garantir la responsabilité des responsables de guerre avec la création d'un mécanisme d'enquête. La Chine a intensifié son déploiement militaire autour de Taïwan avec 53 avions et 19 navires détectés en 24 heures dans le cadre de la plus grande démonstration de force maritime depuis plusieurs années. Cette action survient après une tournée du président taïwanais Lai Ching-te dans le Pacifique qui a provoqué la colère de Pékin. En raison de la forte pollution atmosphérique qui touche Téhéran et plusieurs autres villes iraniennes, les écoles, universités et administrations ont été fermées mercredi et jeudi. C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Falsification des chiffres économiques par l'ex-gouvernement de l'île Maurice, confiance des entreprises sud-africaines en hausse et alerte sur l'impact croissant du terrorisme sur l'environnement. Voici la Minute Éco avec Michel Joseph.
Le précédent gouvernement de l'île Maurice a falsifié pendant des années les chiffres du produit intérieur brut, du déficit budgétaire et de la dette publique du pays, a déclaré mardi son nouveau premier ministre Navin Ramgoolam. Une copie des conclusions de l'audit intitulée « État de l'économie » indique que le taux de croissance pour 2023 est désormais estimé à 5,6% et non à 7%. La confiance des entreprises sud-africaines a connu en novembre sa plus forte progression en glissement annuel depuis près de 2 ans, stimulée par l'augmentation du nombre de touristes, des prix des métaux précieux et des ventes de véhicules neufs, selon des données publiées mardi. Ce regain de confiance ne s'est toutefois pas encore traduit par une accélération de la croissance économique dans le pays le plus industrialisé d'Afrique. Les émissions de gaz à effet de serre liées au tourisme ont représenté 8,8% des émissions mondiales en 2019 et ont augmenté de 3,5% par an entre 2009 et 2019, soit 2 fois plus que les émissions de l'économie mondiale, selon une étude publiée mardi dans Nature Communications. Cette consommation est associée à une empreinte carbone touristique de 5,2 gigatonnes d'équivalent CO2, en 2019.
Actualité du terrain à présent avec l'annonce officielle de la FIFA pour le Mondial 2030 et les détails sur la Coupe du Monde féminine 2027 au Brésil. Voici notre page sportive signée Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
La FIFA officialise aujourd'hui l'accueil du Mondial 2030 par le Maroc, l'Espagne et le Portugal.
801 matchs se dérouleront au Maroc, en Espagne et au Portugal pour 48 équipes. Les 3 autres se joueront en Argentine, en Uruguay et au Paraguay pour marquer le 100e anniversaire de cet événement né à Montevideo. Ce serait donc un retour de la fête mondiale du ballon rond sur le continent africain, selon Amin Birouk, notre consultant sportif à Casablanca, au Maroc.
Nous aurons la confirmation définitive que le Maroc, le Portugal, l'Espagne organiseront la Coupe du Monde 2030, que l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay organiseront les festivités du centenaire de la Coupe du Monde. C'est un formalisme auquel s'est attachée la FIFA avec des process, et parmi les process, la visite des fameux inspecteurs pour découvrir et faire découvrir les infrastructures et pas seulement les stades des 3 pays. Les 3 pays ont, je dirais, mis en lice 17 stades, des installations, des terrains d'entraînement, des fan zones, sans oublier, bien évidemment, les infrastructures aéroportuaires, hôtelières, les transports publics. Tout cela a été scruté de manière minutieuse et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un satisfecit général puisque la note d'ensemble est de 4,2 sur 5. C'est la note la plus élevée des visites d'inspection, ex aequo avec le dossier de candidature de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2034. Et ce sera l'occasion de célébrer en Afrique, de Tanger au Cap, la 2e Coupe du Monde en terre africaine après celle qu'avait obtenue l'Afrique du Sud en 2010.
Amin Birouk, consultant sportif. L'Afrique sera représentée par 9 ou 10 pays selon un ultime match de barrage. La FIFA va aussi attribuer aujourd'hui le Mondial 2034 à l'Arabie Saoudite, seule candidate après le renoncement de l'Australie et de l'Indonésie et la mise en sommeil des ambitions footballistiques de la Chine.
Le Mondial féminin au Brésil, programmé du 24 juin au 25 juillet 2027.
Cette 10e édition du Mondial féminin lancée en 1991 se tiendra pour la première fois en Amérique du Sud. Sur les 32 équipes participantes, la zone Europe disposera de 11 tickets directs, l'Amérique du Sud de 3 en incluant les Brésiliennes qualifiées automatiques, l'Amérique du Nord et l'Afrique de 4 chacune, l'Asie de 6 et l'Océanie d'un seul, les 3 dernières places se disputant lors d'un barrage intercontinental à 10.
Merci Yacouba. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani toujours avec vous. Bienvenue dans notre section magazine avec Joe Biden qui inaugure un monument en hommage aux victimes des pensionnats amérindiens. Les preuves que le journaliste Austin Tice est toujours vivant et Laetitia Bader de Human Rights Watch qui met en lumière la crise humanitaire au Soudan, souvent ignorée, sans oublier les défis de la montée du niveau de la mer et du réchauffement des océans aux Seychelles. Plus de 100 personnes ont été tuées dans un bombardement au Darfour Nord où les combats entre l'armée et les paramilitaires des FSR continuent. Human Rights Watch a également dénoncé des crimes de guerre dans le Kordofan Sud. Ce conflit, qui a déjà causé des milliers de morts, s'accompagne d'une crise humanitaire grave. Laetitia Bader, chercheure pour Human Rights Watch, récemment de retour d'une mission dans la région, alerte sur l'augmentation des déplacements massifs des civils et l'inaction de la communauté internationale face à la situation. Depuis Rome, elle est au micro d'Eric Manirakiza.
Alors, on était à la frontière entre le Soudan et le Sud-Soudan, alors du côté sud-soudanais, où, alors c'est une frontière où depuis le début du conflit, en fait, 700 000 personnes ont traversé cette frontière. Et ce qu'on a remarqué, on y était la semaine dernière, c'est qu'il y a eu une augmentation, en fait, des civils qui arrivaient. Il y avait des milliers de civils qui arrivaient chaque jour, qui est vraiment une escalation des derniers mois. Et c'est des civils, en fait, qui fuient des nouveaux combats qui ont lieu dans deux États au Soudan en particulier, Sennar et aussi les États du White Nile et Blue Nile, qui étaient, dans le cas des derniers, plutôt épargnés le conflit jusqu'à maintenant, en fait. Donc, on a recueilli de témoignages de civils qui fuyaient pour des raisons diverses, en fait. Il y avait ceux qui fuyaient les bombardements des forces de l'armée soudanaise. Alors, on a recueilli des témoignages aussi de blessés qui sont actuellement dans l'hôpital du côté du Sud-Soudan, des blessés très gravement blessés à cause des bombardements. On a aussi parlé à des civils qui, en fait, fuyaient avant que les forces de soutien rapide arrivent dans leur village, en fait. C'était juste la peur que les forces de soutien rapide arrivent, qu'ils ont fui. On a parlé à des membres d'un village où 350 personnes de ce petit village sont tous partis en même temps parce qu'ils avaient tellement peur à entendre des informations que les FSR étaient en train de s'approcher. Ce qui est vraiment flagrant dans ces témoignages, et non seulement le fait que vraiment les gens ont été déplacés à maintes reprises, que les gens se retrouvent vraiment sans possession. Alors, c'est parce qu'ils ont dû se déplacer plusieurs fois, c'est dû au pillage massif, surtout par les FSR, tous les villages où ils ont occupé. Actuellement, il n'y a vraiment nulle part au Soudan où les civils sont protégés et peuvent avoir une sécurité. Donc, voilà pourquoi on voit vraiment même des communautés qui n'avaient pas été déplacées jusqu'à maintenant qui arrivent actuellement au Sud-Soudan. C'est une catastrophe.
Selon vous, le conflit au Soudan est-il négligé ou oublié par la communauté internationale? Et si oui, pourquoi?
Absolument, mais c'est vraiment un conflit qui est largement négligé. Le mois dernier, on avait vu une réunion au Conseil de sécurité où la Russie, à la dernière minute, avait en fait posé son veto sur une résolution qui avait été largement obtenu le consensus, qui disait une fois de plus aux deux parties belligérantes qu'il fallait absolument arrêter de se battre. Mais ce qu'on n'a pas vu encore vraiment, c'est un effort au niveau politique de haut niveau qui est absolument nécessaire pour mettre fin aux attaques sur les civils, l'importance qu'il y ait le déploiement d'une force qui protégerait les civils au Soudan aussi vite possible.
Laetitia Bader, chercheure de Human Rights Watch. Les Seychelles, un petit pays insulaire, situés sur la côte est de l'Afrique, font partie des États participant à une audience sur le changement climatique qui se tient jusqu'au 13 décembre à la Cour internationale de justice de La Haye, aux Pays-Bas. Kate Bartlett s'est rendue sur l'île principale Mahé pour voir comment les habitants font face à la montée du niveau de la mer et au réchauffement de l'océan. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Il y a peut-être beaucoup de poissons aujourd'hui sur ce marché de Victoria, la capitale des Seychelles, mais Cliff Moral, un pêcheur chevronné, dit que ce n'est pas toujours le cas.
Parfois nous allons, nous n'avons pas de poissons, pas assez de poissons à cause du changement climatique. La température est très élevée et les poissons doivent aller loin dans les profondeurs de la mer.
Charlize Fideria dirige ce centre de plongée sur Mahé, l'île principale de cet archipel située au large de la côte est de l'Afrique. Elle a vu comment le réchauffement climatique a affecté les espèces dans cette partie de l'océan Indien.
Littéralement, et j'ai presque pleuré sous l'eau parce que je me disais, où sont les requins? Où sont les raies? Où est toute chose? Je ne vois rien.
Elle affirme également que les changements du corail ont été radicaux au cours de sa vie.
Quand j'ai commencé à plonger, il y avait le blanchiment du corail. Mais c'est bien pire maintenant. Bien que nous ayons constaté que les coraux poussent plus vite qu'on ne le pense, ce n'est pas encore assez rapide pour s'adapter au changement de température de la mer.
Flavien Joubert est le ministre seychellois de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement.
Nous avons connu plusieurs épisodes de l'échauffement. Chaque fois que vous avez un échauffement, votre récif s'effondre, le corail vivant meurt, puis il revient. Mais il ne revient pas au même niveau.
Autre phénomène, des précipitations plus importantes que d'habitude qui provoquent des inondations et des glissements de terrain. L'année dernière, des pluies torrentielles ont détruit cette maison située à l'extérieur de Victoria. Plusieurs personnes sont mortes. Les fortes pluies menacent également la viabilité des œufs des tortues géantes d'Aldabra, originaires des Seychelles. Ces tortues terrestres sont également confrontées aux menaces du réchauffement climatique, de la perte d'habitat et de l'élévation du niveau de la mer, l'un des plus grands défis à relever ici. Le niveau de la mer autour des Seychelles augmente d'environ 3 mm par an, selon le ministre de l'Environnement, Flavien Joubert. Le président Wavell Ramkalawan affirme que les gens finiront par être déplacés.
Nous sommes confrontés au poids de la crise climatique. Certaines de nos îles coralliennes pourraient disparaître et le long de la côte des îles granitiques, où vivent la majorité de la population, nous devrons nous déplacer vers des terres plus élevées.
Monsieur Joubert estime que les grands pays sont les premiers responsables des événements liés au climat et qu'ils devraient aider les petits pays à en gérer les effets. Entre-temps, le gouvernement a réhabilité les récifs coralliens et encouragé l'utilisation d'énergies renouvelables en espérant que ces mesures contribueront à préserver les moyens de subsistance des personnes et des espèces qui habitent les 115 îles des Seychelles.
Après la disparition d'Austin Tice en Syrie, la famille du journaliste a reçu la preuve qu'il est toujours en vie. La chute du régime du président Bachar al-Assad relance les efforts pour le ramener aux États-Unis. Le reportage de Liam Scott et de Christina Caicedo-Smith est relaté par Jean-Roger Bion.
L'ancien Marin et étudiant en droit devenu journaliste indépendant a été capturé en Syrie en 2012. Au-delà d'une vidéo prise après sa capture, on n'a guère entendu parler de lui depuis. Mais vendredi, la famille avait de nouvelles informations à partager. Mark Tice est le père d'Austin.
Nous avons récemment reçu de nouvelles fraîches d'une source bien informée selon laquelle Austin est bel et bien vivant.
Les nouvelles informations situent Tice dans une prison de Damas. Debra Tice est la mère d'Austin.
Austin est bien vivant et bien traité. Et je peux vous dire qu'il attend de rentrer à la maison. Il est tellement prêt. Et il a su, dès le premier jour de sa détention, qu'il allait retrouver la liberté.
Après avoir parlé aux médias vendredi, 17 membres de la famille et quelques accompagnateurs se sont rendus à la Maison Blanche par des températures glaciales pour parler aux responsables. Et dimanche, le président Joe Biden a réitéré son engagement a rapatrié le journaliste.
Nous pensons qu'il est vivant, nous pensons pouvoir le ramener, mais nous n'en avons pas la preuve directe et Assad devrait être tenu pour responsable.
Le soulèvement contre Assad et les troubles qui en ont découlé ont incité Austin Thijs a réalisé un reportage dans cette région en 2012. Megan Mellon est la sœur d'Austin.
Il fallait qu'il aille raconter ce qui se passait là-bas parce qu'il se disait que personne d'autre n'était là. Personne ne raconte ce qui arrive spécifiquement aux femmes et aux enfants.
La communauté internationale s'efforce également d'obtenir la libération de Thijs dans le contexte des changements survenus en Syrie. Pour la famille Thijs, la chute de Bachar al-Assad apporte l'espoir que leurs efforts pour ramener Austin à la maison n'ont pas été vains.
Le président américain Joe Biden a présidé lundi son dernier sommet des nations tribales à la Maison-Blanche en plongeant dans le passé sombre du pays et en établissant un monument national pour commémorer les souffrances de milliers d'enfants amérindiens et de leurs familles dans les pensionnats fédéraux au 19e et 20e siècle. Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, était en direct de Washington. Ce reportage est relaté par Lionel Gaïma.
Les millions d'Américains qui appartiennent à l'une ou plusieurs des 574 tribus reconnues par le gouvernement fédéral savent que leur passé est marqué par la douleur. Au début de l'année, le président Joe Biden a qualifié de tâche dans l'histoire de la nation le traitement de milliers d'enfants amérindiens dans les pensionnats du gouvernement. Lundi, il a signé une proclamation pour établir un monument sur le site de l'école industrielle indienne de Carlisle en Pennsylvanie, dont la mission du fondateur était de tuer l'Indien, sauver l'homme.
Le gouvernement fédéral a mandaté le retrait d'enfants de leur famille et de leur tribu, lançant ce que l'on appelle l'ère des pensionnats indiens fédéraux sur une période de 150 ans, du début des années 1800 à 1970, l'un des chapitres les plus horribles de l'histoire américaine. Nous devrions avoir honte.
Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur des États-Unis est au service de 1,9 million d'Amérindiens et d'Autochtones de l'Alaska, dont beaucoup vivent sur des terres souveraines dans l'ouest des États-Unis. Cela ne représente qu'un petit nombre de la population qui, selon les historiens, prospérait sur le continent avant la colonisation européenne. Les Amérindiens n'ont obtenu la citoyenneté américaine qu'en 1924, avec l'adoption de la loi sur la citoyenneté indienne. Elva Martinez est une militante de la tribu Walker River Paiute.
C'est au cours de notre génération que les Autochtones ont enfin obtenu le droit de vote. C'est donc encore un sujet important aujourd'hui. Nous disons toujours aux gens que ce sont nos parents et les gens de cette génération qui se sont battus pour le droit de vote.
Le ministre de l'Intérieur, Deb Haaland, la première Amérindienne à occuper un poste de ministre, a salué le travail de M. Biden.
Le président Biden a été le meilleur président pour les Indiens de toute ma vie. C'est un président et une administration qui voient vraiment les peuples indigènes et qui ont travaillé sans relâche pour résoudre les problèmes des zones indiennes qui ont longtemps été sous-financées ou carrément ignorées.
Le président élu Donald Trump a nommé le gouverneur du Dakota Nord, Doug Burgum, à la tête du ministère de l'Intérieur qui, outre le bureau des affaires indiennes, gère également les vastes ressources foncières du pays. M. Trump a indiqué qu'il souhaiterait lier la politique foncière à la politique énergétique en nommant également M. Burgum au poste de tsar de l'énergie de la Maison-Blanche.
Nous allons faire des choses avec l'énergie et avec des terres qui vont être incroyables.
En tant que président, Trump a irrité les militants autochtones en levant l'interdiction d'un oléoduc qui traverse des terres autochtones souveraines sur son trajet entre le Canada et le Texas. M. Biden a révoqué la décision de M. Trump dès le premier jour de son mandat.
Ce journal touche à sa fin. À la présentation, Nanit Talani, à la mise en onde, Michel Joseph, à la technique, Kelvin Fowler. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.